juste, je vais lancer, je vais essayer d'être rapide pour quand même dresser un bref tableau de la situation et pour dire ce que nous, en lutte ouvrière, nous cherchons à faire au milieu de tout ça. Alors, en ce qui concerne les attaques du patronat, les attaques du gouvernement, je vais être rapide. On a quand même ici dans la région une attaque violente du grand patronat avec la fermeture de l'usine de Cholet. Donc c'est évidemment une attaque violente, révoltante, parce que là c'est quand même une grande bourgeoisie des actionnaires qui prouvent qu'ils n'ont absolument aucune limite, et ça ne les gêne pas de démolir en effet la vie de centaines de travailleurs qui pendant des années d'ailleurs ont laissé leur peau dans cette boîte. Parce que c'est travailler chez Michelin, on n'en sort pas indemne en réalité. Et puis voilà, quand ces messieurs considèrent qu'ils ont du fric à faire ailleurs, voilà, t'es jeté comme un vulgaire Kleenex. Donc voilà, on est confronté à ces attaques-là patronales, aux attaques bien sûr aussi gouvernementales. Vous avez entendu que le gouvernement projetait de nous faire payer d'une façon ou d'une autre les 40 milliards qui manqueraient dans les caisses. Soi-disant, on ne travaille pas assez. Soi-disant, on dépense trop. Il y a trop de dépenses sociales. Donc tout ça, c'est évidemment un recul, une démolition méticuleuse depuis des années, en fait, de nos conditions de travail et de nos conditions de vie. Voilà. Mais ça, je dirais que c'est quelque chose de classique dans cette société capitaliste. C'est quelque part le sort de tous les travailleurs et des travailleurs du monde entier, en fait, d'être confrontés à cette lutte de classe. Alors, on sait en général, en tout cas, nous, lutte ouvrière, et puis on sait en général se repérer par rapport à tout ça et comment on peut organiser le camp des travailleurs pour essayer de résister. Donc là-dessus, je vais pas en dire plus et je vous laisserai développer les points que vous avez envie de développer. Ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'en plus de ces attaques-là, c'était trop fort, hein, c'est ça ?
Oui, oui, c'est ça.
Pardon, en plus, Donc en plus de ces attaques-là, on est maintenant confronté à une évolution de plus en plus réactionnaire, de plus en plus nationaliste, militariste et guerrière de la société. Et ça aussi, c'est un danger grave, en fait, pour nous. Parce que, d'abord, pourquoi j'insiste là-dessus ? Je pense quand même que tout le monde voit de quoi je veux parler. Parce que depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche, celui qui n'a pas compris que le capitalisme, c'était la guerre, quand même, il est fort. Parce que là, franchement, c'est tous les jours. Tous les jours, on comprend que voilà, ce système, c'est la guerre économique. C'est la guerre pour les marchés, c'est la guerre pour les débouchés, c'est la guerre pour les terres rares, pour les matières premières, c'est la guerre pour l'énergie, c'est la guerre pour l'intelligence artificielle. Et on mesure que cette guerre, elle se fait de plus en plus féroce. Alors cette guerre économique, c'est pas Trump qui l'a déclenchée, elle est depuis toujours dans ce système capitaliste et les camarades de Michelin et de toutes les autres entreprises, ils savent ce que ça veut dire quand on leur explique que dans la guerre économique, dans la concurrence internationale, il faut qu'ils soient plus compétitifs. Ils savent très bien ce que ça signifie en termes d'intensification de travail, en termes de blocage de salaire, en termes de suppression d'emplois. Enfin bon, je pense que vous pourrez le raconter plus précisément que moi. Mais en plus de tout ça, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que cette guerre économique, elle finit toujours par se traduire sur territorialement. C'est-à-dire que cette guerre économique, c'est aussi toujours une guerre pour dominer des régions entières, des ressources entières. Et donc, c'est un... c'est le prélude, c'est l'antichambre, c'est à la guerre tout court, en fait. À la guerre tout court. Et nous, c'est ce qu'on dit depuis le début, cette guerre en Ukraine, c'était précisément ça, en réalité. Une rivalité pour dominer cette région. Pendant 3 ans, on nous a fait croire qu'il fallait applaudir les États-Unis, l'Europe qui armait l'Ukraine, hein, parce qu'ils allaient libérer l'Ukraine. Hein. Et pendant 3 ans, on nous a fait croire que les États-Unis intervenaient pour ça, pour que les Ukrainiens soient libres. Et puis aujourd'hui, on voit ce qu'il en est. Trump, il fait bisous avec Poutine. Hein, pourquoi? Pour partager l'Ukraine. Voilà, alors maintenant, après 3 ans de guerre, après 1 million de victimes, eh ben les voilà. Hein, les deux, ils vont réussir à se foutre d'accord et à se partager les terres rares, les terres les plus fertiles aussi d'Ukraine. Voilà la réalité. Et on pourrait décliner, prendre toutes les guerres qui font rage aujourd'hui à l'échelle du monde, qui, bien sûr, ont leur particularité, ont leur histoire. Hein, mais, vous voyez, même la guerre qu'on veut nous présenter comme une guerre de religion, celle qui est au Moyen-Orient, donc en Palestine, hein, et qui est menée par Israël, même cette guerre-là, en réalité, elle a pour origine la volonté des grandes puissances impérialistes de conserver leur mainmise sur cette région qui est riche en pétrole. Parce qu'en réalité, Israël, ils l'ont utilisé pour ça. Les Américains, d'abord la Grande-Bretagne, parce que c'est la Grande-Bretagne hein, qui a, parrainé l'installation d'un peuplement juif dans la région. Et puis ensuite, c'est les États-Unis qui ont décidé de faire d'Israël leur gardien dans la région, hein, leur allié privilégié pour justement défendre ses intérêts. Et en fait, le peuple palestinien et le peuple juif aujourd'hui sont piégés dans dans ces calculs et dans ces manœuvres des grandes puissances impérialistes. Voilà. On pourrait discuter de la guerre qui déchire la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Mais c'est pareil, c'est des rivalités pour dominer et pour s'approprier telle ou telle matière première, en particulier là, le coltan. Donc je ne vais pas passer en revue hein, toutes les guerres, mais j'insiste là-dessus pour dire que, vous savez, quand il y a eu l'allocution d'Emmanuel Macron, il y a de cela, alors j'ai oublié, un mois, un peu plus d'un mois, qu'il nous a expliqué que l'heure était grave, qu'il fallait... bien réalisé qu'on était menacé par cette menace existentielle qui était Poutine et que peut-être d'ailleurs hein, Poutine il allait bientôt arriver à Paris. Enfin bon, je caricature un petit peu, mais enfin quand même, c'était quand même ça l'idée. Hein. Et bien sûr, il a brandi cette menace là pour qu'il y ait un réflexe d'unité nationale derrière lui et puis que pour qu'on se prépare à la guerre. Alors nous, ce qu'on pense, c'est que c'est largement du pipeau, c'est largement du bluff de la part de Macron, mais il y a quand même une réalité derrière, c'est ce que je viens de dire, cette rivalité-là, et y compris ces affrontements armés, ils sont bel et bien là, et ils peuvent absolument se multiplier en réalité. Et il y a quand même une chose de vrai, c'est que dans ce système-là capitaliste, quand tu as un pays qui veut défendre sa place et qui veut compter, eh ben il faut qu'il montre les dents. Et il faut qu'il montre que lui, il est prêt à faire la guerre. Et quand il nous explique qu'il va rajouter 50 milliards sur le budget militaire, eh ben là, il le fait. Il le fait. Il le fait aujourd'hui. Alors tout ça, on n'est pas encore en train de recevoir des bombes sur la figure, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Que dans, je ne sais pas combien de temps, mais que y compris les affrontements se traduisent aussi pour nous comme ça. Alors aujourd'hui, d'ores et déjà, on va le payer cher, parce que tout ce pognon qui est mis pour acheter des rafales, des chars d'assaut, des drones hyper sophistiqués, eh ben, c'est de l'argent qu'on ne va pas avoir pour les EHPAD, qu'on ne va pas avoir pour les hôpitaux. Je discutais avec des camarades de l'hôpital tout à l'heure. C'est de l'argent qui va manquer pour les écoles, pour les transports publics, et bien sûr qui nous fait reculer tous. Hein. Et sans compter, encore une fois, que tout ça, ça prépare les guerres. Alors voilà, moi, il y a quand même une chose qui me frappe, c'est que pendant, il y a quelques années de cela, tous les dirigeants de la planète nous expliquaient qu'il faut absolument qu'on se mobilise contre la catastrophe climatique, le réchauffement climatique, etc., etc. C'était hypocrite parce qu'il n'y avait rien qui suivait leurs belles déclarations. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça. Encore une fois, aujourd'hui, c'est, voilà, il faut construire des obus, il faut construire des missiles, il faut construire des tanks. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors c'est quoi? C'est quoi cette classe qui dirige aujourd'hui? Cette classe capitaliste? Bah, c'est une classe qui est en train de détruire nos conditions de vie de travailleurs, mais qui est en train de détruire l'humanité, qui est en train de nous faire plonger dans le chaos, dans les dévastations, dans la barbarie. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe à Gaza, on se dit, mais quel est le degré de cynisme et de barbarie? On va aller jusqu'où? T'as beau te dire on a atteint le point culminant, non. Ça continue. Alors voilà, je dis pas ça pour plomber le moral de tout le monde, hein, même si je sais que quand justement les gens regardent, voilà, ça pèse sur le moral. Et les gens avec qui on discute autour de nous, de toute façon, ils se disent, mais voilà, c'est en train de partir en cacahuète de tous les côtés. En effet, les crises, la crise climatique, les guerres, les attaques, la misère, les inégalités, etc. Et puis tout ce qui y va avec, hein, la délinquance, la jeunesse qui pète un câble, qui va, voilà, il y a un tas de conséquences, hein, dans notre vie quotidienne, en fait, hein, de tout ce délitement-là. Et la plupart des gens disent, de toute façon, par rapport à ça, on est impuissant, on est dépassé. On est dépassé par les événements. Voilà. Et ça, c'est le sentiment général. Et ça pèse, y compris sur la combativité dans une boîte. Parce que d'accord, tu vas te battre pour des salaires, tu vas te battre peut-être pour sauver ton boulot, mais t'as vu tout ce qui se passe? On est mort, quoi. Enfin, voilà, il y a comme ça une espèce de chape de plomb. Hein. Alors, moi, je tiens à dire que nous, on partage pas du tout ce point de vue. C'est que nous, on est absolument convaincus qu'il y a une force sociale qui est capable de se mettre au travers de cette évolution-là, à condition qu'elle se batte, à condition qu'elle ait conscience qu'il faut se débarrasser de ceux qui dirigent là. Ben, c'est le monde du travail, c'est la classe ouvrière. Voilà. Nous, notre conviction, qui a toujours été celle d'ailleurs des marxistes, hein, des communistes, c'est que il y a une classe sociale qui a la clé, finalement, pour sortir la société de cette économie capitaliste folle, absurde, qui nous mène dans le mur. C'est les exploités, ce sont les travailleurs. Voilà. Et nous, tout notre combat, il consiste à rassembler les travailleurs, non seulement pour qu'ils mènent les luttes face au patronat, les luttes quotidiennes, j'ai envie de dire, hein, encore une fois, ses conditions de travail, son salaire, mais aussi rassembler des travailleurs qui sont conscients que cette lutte, elle sera véritablement une victoire, et elle sera véritablement terminée quand on les aura renversé, ces gens-là, quand on aura exproprié tous les capitalistes des multinationales, des grandes entreprises, et quand on aura pris nous-mêmes, les travailleurs, le pouvoir politique entre nos mains. Parce que toute cette société-là, on l'a fait tourner. On sait comment elles fonctionnent. Les entreprises, on sait comment elles tournent. On saurait, nous, les faire tourner, ces entreprises. Pas pour fabriquer des milliards de dividendes pour les actionnaires. Fabriquer des pneus, par exemple. Et puis pour faire que le boulot, ça ne soit pas un enfer. Donc nous, on les ferait tourner, ces boîtes. Eh ben, en embauchant massivement, en réduisant le temps de travail, en améliorant, bien sûr, les conditions de travail pour tous. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs d'activité de la société. Nous, si on dirigeait la société, ben voilà, on n'aurait pas cet aveuglement, hein, de ne regarder que les courboursiers, que les dividendes à verser. Mais justement, on réorganiserait l'économie pour qu'elle réponde aux besoins de tous. Voilà. Et qu'on l'organise à l'échelle de la planète. Et je pense qu'en effet, la seule perspective, que les peuples, au lieu de se faire concurrence, au lieu d'être dressés les uns contre les autres, c'est que justement, on organise une économie à l'échelle internationale. Et qu'au lieu de cette concurrence-là destructrice, eh bien qu'on coordonne, qu'on coopère, les efforts des travailleurs à l'échelle de la planète. Ça, c'est les perspectives communistes révolutionnaires. Voilà, les perspectives de changer la façon d'organiser l'économie et la société avec les travailleurs au pouvoir. Et là, oui, là, on pourrait imaginer un avenir pour l'humanité. Mais tant qu'on est sous la tutelle, sous la domination, qu'on est mené par le bout du nez, par cette classe-là, eh bien, on est condamné, effectivement, à servir de chair à profit. Hein, on est condamné à crever au boulot. Et puis, régulièrement, ben, on est condamné à crever sur les champs de bataille, en s'entretuant. Voilà, voilà la réalité. Alors bon, nous, on sait très bien, on connaît l'état de la classe ouvrière. On sait qu'aujourd'hui, tous ces dirigeants-là, ils sont forts parce qu'on est faible. Parce qu'il y a une grande faiblesse de notre combativité. Et puis il y a aussi la faiblesse de notre conscience. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de l'importance que nous avons, nous, les travailleurs, et de la force collective qu'on a. Voilà, qu'on a la force de changer le cours de l'histoire en nous révoltant. Et en effet, c'est pas seulement un petit, relooking du système, hein, en faisant quelques impôts de plus par-ci, par-là qu'il faut. C'est une révolution. Voilà, donc voilà pour l'intro. Voilà. Je vais vous laisser la parole. Donc qui veut la parole pour rajouter, pour compléter, pour poser des questions, dire aussi, hein, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la situation? Est-ce qu'elle vous inquiète? Voilà. Alors qui voulait revenir un petit peu sur la question des syndicats, hein, il peut y avoir peut-être, qui veut intervenir aussi. Ouais. Je voulais juste dire que nous, on est des militants syndicaux, c'est-à-dire que on sait qu'il y a beaucoup de militants dans les syndicats qui sont des militants dévoués voilà, qui font leur maximum et qui ont envie que les choses elles bougent, etc. Donc quand on fait cette critique, hein, quand Bastien tu fais cette critique ou que la camarade souligne, on parle des appareils syndicaux et des chefs syndicaux. Il faut vraiment faire la différence. Parce que nous, on n'est pas du tout contre que les travailleurs s'organisent en syndicat. On pense que même dans les entreprises, il faudrait qu'il y ait bien plus de travailleurs qui peuplent les syndicats et qu'ils les fassent vivre vraiment et qu'ils injectent dans ces syndicats, justement, une combativité, une démocratie bien plus riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, nous, on pense que une des premières choses qu'on a à faire quand on bosse, c'est de chercher à se rassembler, c'est de chercher à se réunir, c'est de chercher à former un collectif de travailleurs qui ne va pas se laisser faire et qui va organiser la résistance collective. Et ça, le syndicat, ça nous donne cette possibilité. Hein. Et c'est en ce sens-là que nous, on est des militants syndicaux et qu'on continuera de l'être. En revanche, quand il y a une lutte qui se déclenche dans une entreprise, qu'il y a des travailleurs qui ont décidé de se battre, de faire grève, etc., etc., ben nous, on pense que là, il faut ouvrir. On doit ouvrir à tous ceux qui décident de se battre, à tous ceux qui décident de relever la tête, la possibilité, justement, de participer à l'organisation et à la direction de leur lutte. Ça nous semble être un principe démocratique de base. Hein, c'est-à-dire les gens voilà, qui font des choses, eh ben, ils discutent ensemble et ils décident ensemble. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que nous, on est à la fois des militants syndicaux et en même temps, on est des chauds partisans, des comités de lutte, des comités de grève, quand il y a en effet la vapeur hein, pour qu'il y ait des dizaines, des centaines de travailleurs qui s'organisent et qui se battent. Voilà. Et que dans ces circonstances-là, on sait aussi que dès que les travailleurs ils montrent les dents, dès qu'ils se font craindre un peu du patronat, et ben c'est là que les appareils syndicaux, et c'est là que les grands chefs syndicaux, ils jouent leur rôle décisif de pompiers. Ils sont là pour sortir la lance à incendie et pour refroidir tout ça, hein, pour contrôler tout ça. Et parce que ça, c'est aussi l'histoire du mouvement ouvrier qui nous le montre. Hein. Elle nous montre que, y compris quand il y a eu des luttes, des grèves générales et des luttes très puissantes en France, ça a été les appareils syndicaux qui ont convaincu les travailleurs d'arrêter leur mouvement. de dire bah, c'est bon, là on a gagné pas mal de trucs déjà les gars. Je parle par exemple de mai-juin 1936, quand les travailleurs ils occupaient leur usine et qu'ils ont obtenu les congés payés. Et là, les syndicats, notamment la CGT, hein, a fait le tour de toutes les boîtes en disant « Oh là, les gars, on ne pourra jamais obtenir plus, maintenant il faut se calmer, hein, et il faut savoir arrêter une grève. » Ça, ça a été leur rôle. Et nous, c'est ce rôle-là qu'on combat, justement. Parce que c'est quand les travailleurs ils réalisent la force qu'ils ont et quand ils commencent à l'éprouver et quand ils commencent à se faire craindre du patronat, c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est là qu'il faut au contraire aller plus loin. Et c'est là qu'il faut se dire, bah, finalement, ces dirigeants-là, c'est pas les nôtres. Comme la camarade a dit, c'est pas elle qui a voté pour la directrice de l'hôpital. Hein, et c'est pas nous qui avons voté pour les actionnaires de Michelin. Il n'y a pas d'élection pour ça. Et pourtant, c'est quand même eux qui décident. C'est eux qui mènent la politique de la boîte. Ben nous, voilà, si les travailleurs, ils ont la puissance de se faire craindre du patronat, eh bien, il faut qu'ils aillent jusqu'à dire... Dans toutes les entreprises, on est chez nous, on est chez nous. C'est là qu'on passe le plus clair de notre temps. C'est cette boîte-là, nous, on sait la faire fonctionner. On en connaît les moindres recoins, etc. C'est à nous, c'est chez nous, et c'est à nous de la diriger. Voilà, qu'ils aillent jusqu'à contester, justement, le pouvoir de la bourgeoisie. Et ça, on sait très bien que c'est ce que ne permettront pas les appareils syndicaux. Voilà, parce que dans l'histoire, ils ont toujours eu ce rôle-là de ne pas permettre aux travailleurs de franchir cette étape. Alors voilà pourquoi, hein, à la fois, on pense que le syndicat, ben, c'est l'école de l'organisation et de la lutte pour bien des travailleurs, et on a tous un... Et il faut qu'ils se renforcent, et qu'ils se renforcent du bon côté des choses, c'est-à-dire avec des syndiqués qui sont conscients de devoir être tous des guerriers, pour reprendre le terme qu'on utilisait tout à l'heure dans une discussion, hein, les travailleurs qui s'indiquent, qui s'indiquent pas dans l'esprit d'avoir pris une assurance, pas dans l'esprit d'avoir une bonne assistante sociale, hein, parce qu'ils sont entrés dans le syndicat, mais dans l'esprit d'être finalement un guerrier, hein, qui doit se battre avec les autres pour se faire respecter et faire respecter ses intérêts. Donc c'est dans ce sens-là. Hein, mais on sait aussi qu'il y a d'autres moments où justement la révolte, elle peut grandir et elle peut déferler. Et là, il faut absolument que les travailleurs, ils apprennent à fonctionner de façon démocratique et qu'il y ait effectivement des comités qui accueillent tous les travailleurs qui veulent se battre, y compris ceux qui ont toujours refusé de se syndiquer, y compris ceux qui ont toujours été des fois contre les syndicats. Parce que oui, les travailleurs, ils changent et il y a des moments où c'est des fois même les plus combatifs, hein, qui arrivent. Hein, et qui se révèlent être les moteurs de la lutte, eh ben, il faut que tous aient leur place justement dans leur lutte, et il faut donc qu'il y ait une organisation propre à cette lutte. Voilà. Voilà ce que je voulais préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quand même, hein, et tous les camarades qui ont vécu des moments de grève, ou, etc., ben, il faut qu'ils sachent que ces moments de grève sont plus rares que les moments où il ne se passe rien. Et que dans les moments où il ne se passe rien, ben, y a quand même des choses à organiser. Et il y a quand même une solidarité ouvrière à construire. Et que souvent, ça passe aussi, ça passe essentiellement par les militants syndicaux. Ça, c'est vraiment quand même notre préoccupation de militants. De militants syndicaux, de militants politiques. C'est qu'en fait, quand on appartient au monde du travail, quand on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, hein, on passe notre vie à quoi ? Bah, tu passes ta vie à bosser, à te faire exploiter, ça c'est sûr. Et puis, tu passes ta vie à attendre. Alors, tu attends la décision d'un patron. Est-ce qu'il va t'embaucher, pas t'embaucher, c'est oui, non, etc. Une fois que tu bosses, tu attends les décisions de ton chef. Hein, et le chef, alors, il te la donne ou pas, la formation ? Il te la donne ou pas, l'augmentation ? Il te donne ce jour de congé, là, dont tu as besoin, etc. T'attends. Bon, bah, savoir à quelle sauce tu vas être mangé. Tu sors de la boîte, t'attends les décisions de ton bailleur. Hein? Alors, il va la faire, cette réparation. Quand est-ce que l'ascenseur marche, hein? On attend, voilà. On attend les décisions de son banquier, hein, parce que le crédit, bah, on attend. Voilà, on attend. Pas toute vie à attendre. Politiquement. Bah, on attend les décisions du gouvernement, ok, hein, voilà, voilà, on attend. Et puis quand tu te dis vraiment non, ce gouvernement n'est pas de mon côté, hein, il n'y a rien à attendre de lui, qu'est-ce que tu fais? Eh ben t'attends les autres élections. Oh, le système, il est bien fait, hein. Non, mais le système est super bien fait, voyez, pour que justement, on laisse les autres agir. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on nous met dans le crâne. Surtout que en permanence, de toute façon, on rabaisse les ouvriers. Hein, parce que les ouvriers, ben, quand même, ils n'ont pas fait d'études, voilà. Voilà, c'est les rapports, les chefs qui se conduisent comme des... voilà, c'est comme si tu étais à l'armée, hein, dans plein de boîtes. Hein, dans plein de boîtes, d'ailleurs, c'est souvent une chef, c'est souvent une reconversion des... voilà, des militaires, c'est pas un hasard, hein. Donc, il y a tout ça qui pèse sur nous, hein. C'est que voilà, nous on est juste bon à obéir et à exécuter ce que les autres ont décidé pour nous. Eh bien, nous, tout notre combat, et c'est un combat politique, c'est de prendre le contre-pied de ça, justement. C'est de dire que maintenant, nous les travailleurs, on doit prendre des initiatives. On peut agir. Alors, tout seul, c'est pas facile. Déjà, tu peux agir quand même par ta bouche. Tout seul, tu peux l'ouvrir. Voilà. Je dis pas forcément devant le chef, mais auprès de tes potes. Et déjà, on peut agir quand même, en fait. Hein? À deux, on peut agir un peu plus. À trois, encore plus. À quatre, hein, etc., etc. Mais il y a toujours quelque chose à faire. On a toujours à agir. Et il faut qu'on ait notre plan, il faut qu'on ait notre politique, il faut qu'on ait notre stratégie, il faut qu'on ait... Les patrons, ils ont une stratégie. Oh, ils ont des mois d'avance même sur... voilà. Et c'est cette idée-là, nous, qu'on veut faire passer aux travailleurs. Y compris quand on milite en tant que syndicat. Hein. En tant que syndicat, il n'y a pas de super syndicaliste. Nous, on veut que tous les travailleurs y fassent. Et qu'ensemble, on apprenne. Voilà. Et dans une grève, eh ben ouais, il n'y a pas de super-héros. C'est on l'est tous. Et on est tous des dirigeants de la grève. Et on est tous responsables de son devenir. Que ça se renforce, que ça ne se renforce pas. Et c'est cette idée-là qu'on veut faire passer. Voilà. Et c'est important. C'est important parce que nous, on est convaincus quand on dit que les travailleurs ils peuvent diriger la société. Vous vous rendez compte? Là, on est en train de discuter de diriger une grève. Ça devrait être évident que les grévistes dirigent leur grève. Ben, ça ne les mène pas. Et tout ça, c'est justement pour nous enlever de l'esprit qu'on pourrait organiser et diriger nous-mêmes la société. Hein. Alors que quand vous voyez quand même comment ça se passe dans les boîtes, mais c'est nous qui... On fait déjà tout, y compris on prend des décisions, y compris quand ça ne marche pas, on trouve les solutions, et même avant que le chef il arrive. Hein, c'est grâce à nous que les choses elles marchent. Alors dans les hôpitaux, je vois, c'est encore heureusement que il y a des initiatives, qu'il y a l'envie de faire son travail comme il se doit. Heureusement, on fait en fait déjà des choses et on prend un tas de décisions. Et il faut qu'on se convainque dans notre tête que la société on peut la diriger, voilà, et qu'il n'y a pas besoin de patrons, de grands patrons, je parle, parce qu'évidemment. Il y a les petits patrons, il y a tout. Hein. Il y a le petit patron qui se comporte comme un esclavagiste. Hein. Puis tu as le petit patron qui bosse avec les autres gars et qui fait son salaire et qui fait sa boîte, il vit comme ça. Bon, voilà. Mais ce qui est déterminant, c'est qu'on prenne en main les grandes entreprises, les multinationales, celles qui font l'économie. Et on est capable de les diriger, encore une fois. Imaginez, on a eu un petit aperçu avec le Covid. Comment tous les hauts chefs, les cadres, etc., ils se sont débinés, ils sont partis, ils sont allés se cacher dans leur maison de campagne, etc., ou hein, sur leur yacht, j'en sais rien. Et ça a tourné. L'économie, elle a tourné. Hein, ça a tourné sans eux. Nous, on est convaincus que les actionnaires, que cette classe capitaliste qui prétend aujourd'hui diriger la société, elle pourrait disparaître, elle pourrait... disparaître demain, mais la société elle tourne, parce qu'on l'a fait tourner. Donc nous, il faut qu'on ait cette conscience-là de la force qu'on représente, et que c'est une force sociale qui doit qui doit postuler à la direction de la société. Voilà, j'en reviens à ça. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas du syndicalisme, d'ailleurs. C'est que nous, on pense qu'il faut qu'on change la société. Et il faut qu'il y ait cette conscience-là, cette conscience que les travailleurs, ils doivent être au pouvoir. Et que là, la société, elle changerait du tout au tout, en effet. Là, il y aura un nouveau départ pour organiser l'économie pour toute la société. Voilà. Mais donc, j'insiste là-dessus. Et on nous fait croire, je termine, on nous fait croire que l'histoire, c'est justement, c'est les grands hommes. Hein, c'est Trump, Macron, machin, et que c'est eux qui font l'histoire. Nous, on est convaincus que eux, ils font pas l'histoire, eux. Eux, ils nous font reculer. C'est pas l'histoire qu'on fait, c'est retour vers le passé avec ces mecs-là. Ils font pas avancer l'histoire. Les seuls qui font l'histoire, qui font avancer l'histoire, qui font progresser l'humanité, c'est les opprimés quand ils se battent. C'est les exploités quand ils relèvent la tête. Et là, l'histoire, elle, à nouveau, elle avance vers le progrès. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas ces grands hommes qui font l'histoire, c'est les masses. Mais les masses, quand elles ont conscience de leur force, de ce qu'elles représentent. Et nous, lutte ouvrière, c'est ça notre raison d'être. C'est de véhiculer cette conscience-là. Cette conscience. Même si on est en avance, les travailleurs, ils n'ont pas cette confiance en eux. Ils ne réalisent pas cette force qu'ils ont en eux. Hein? Alors on est mené par le bout du nez, voilà. Et peut-être demain, on ira se foutre sur la gueule avec d'autres travailleurs, d'autres ouvriers sur un champ de bataille, comme ils l'ont fait là, en Ukraine. Peut-être. Mais nous, on pense qu'il faut que cette idée-là, elle continue d'exister. Parce que il y aura des révoltes, et il faut que les travailleurs, ils aient cette conscience-là. Que leur révolte et leur combat, eh ben, il doit aller jusque-là. Et j'espère que si, quand ça surviendra, je ne sais pas quand, dans une révolte générale, ben, j'espère qu'il y aura des centaines d'ouvriers qui auront cette conscience-là. Cette conscience qu'on ne doit pas se battre seulement pour un plein lentille. Il faut qu'on se batte pour la direction de toute la société, parce que la classe capitaliste qui dirige, eh ben, de toute façon, elle est en train de détruire l'humanité et la planète. Avant de faire circuler le micro pour... Non, je trouve pas ça normal, hein, les deux camarades qui ont... Et je trouve pas ça normal, et justement, ma conviction, c'est quand il y aura cette révolte générale qui nous permettra de nous faire respecter et qui nous permettra, j'espère, en effet, de prendre le pouvoir et de gérer la société comme on l'entend, ma conviction, c'est justement qu'on la gérera mille fois mieux qu'eux. Parce que, justement, avec nous tous ensemble, avec toi, camarade, on aura la préoccupation d'abord de régler les problèmes qui nous touchent tous, justement. Nous, on aura cette volonté de rendre le travail vivable et d'en faire autre chose du travail. Vous savez, dans un autre banquet, il y avait des camarades qui avaient du Cap Vert. Elles avaient passé l'après-midi à fabriquer des petits samoussas pour le banquet du soir. Et donc on a discuté, disons, on a travaillé toute l'après-midi, etc. Et puis elles expliquaient, elles disaient, on s'est bien marré. Alors je dis, oui, vous avez travaillé, mais vous êtes marré. Vous êtes marré parce que c'est à discuter, parce que ça travaillait, parce que vous travaillez à votre rythme, vous faisiez un truc qui avait du sens, etc. Et je leur ai expliqué que nous, on pense que le travail, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, en effet, un moment où on fait quelque chose d'utile pour la société, d'un moment qui donc nous épanouit, nous grandit, hein, et un bon moment, justement. Mais ça pourra se faire que si nous, on prend le pouvoir, très clairement. Répondre aux besoins de tous, avoir un logement correct, avoir un salaire correct, accéder donc aux biens qui existent, tous. Ça pourra se faire que si nous, on prend les commandes. C'est très clair. Sans ça, on est condamné et ils n'en ont rien à faire. Là, on peut dire, il faut en être convaincu. Il faut en être convaincu. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui à Gaza. Vous croyez que ça compte pour eux, la vie humaine? Ça compte pas. Hein, aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation, dans un pays très riche. Mais regardez le nombre de gens qui meurent à la rue, au pied parfois d'immeubles qui sont vides. Au pied d'immeubles vides. Hein? Donc on sait que de toute façon, voilà, ils seront sans pitié. Hein? Leur problème, eux, c'est leur coffre-fort. Qu'ils se remplissent. Voilà, point barre. Donc moi, oui, ma confiance, c'est ça. C'est que collectivement, ben, nous, on aura ce bon sens. Et on commencera par répondre à nos problèmes. Nos problèmes de tous. Les problèmes, ben, justement, des travailleurs, les problèmes des petites mains, hein, jusqu'à la plus... Voilà, les petites mains de l'économie. Voilà. Alors, il y avait un autre camarade qui voulait... Je voudrais aussi dire que les comment dire, c'est une réalité. Tu dis qu'il faut se rassembler, les organisations syndicales, il ne faut pas les dénigrer, etc., etc. Mais c'est quand même une réalité que le patronat, il achète des syndicats. C'est quand même une réalité dans toutes les boîtes. T'as les syndicats maison, etc. Ça, t'es d'accord, enfin, tu le sais comme nous tous. T'as même été confronté peut-être dans certaines boîtes à ça. Hein, et parce que oui, le patronat, et le grand patronat, ben, il a du fric. Alors avec son fric, il achète des chaînes de télé, il achète des journaux, il achète des boîtes, il achète des politiciens, et puis il achète aussi des syndicats. Voilà. Ben, oui. Voilà. Et même... En fait, dans un pays riche comme la France, la bourgeoisie française, collectivement, a inventé un système avec, en intégrant les sommets des appareils syndicaux. Ils ont mis des années à le faire, mais ils y sont arrivés. Et aujourd'hui, les sommets des appareils syndicaux, ils passent leur vie à croire qu'ils co-gèrent des choses avec le patronat. Voilà. Et ils passent leur vie. Moi, j'ai une copine, tu vois, elle bosse dans un ministère de l'Agriculture, et elle m'a dit qu'une fois, elle a été invitée dans une réunion syndicale. Il y avait une réunion donc entre la direction et les syndicats. Elle m'a dit, je les ai tous vus arriver en costard avec un attaché caisse. Franchement, je ne savais même plus qui était mon syndicat. Oui, franchement, je n'arrivais pas à les distinguer. Voilà. Voilà, donc, et c'est une réalité. Et les directions syndicales, et les Laurent Berger, là, vous avez vu que Laurent Berger, le dirigeant de la CFDT, il est recasé au conseil d'administration d'une banque, CIC.
Ouais, ouais.
Alors, lui, il n'a pas été foutu dehors, hein, comme bien de mes camarades militants syndicaux, qui n'ont pas été tolérés par les patrons et qui ont été licenciés. Non, lui, il n'a jamais été licencié. Il a fait une belle carrière de dirigeant syndical et maintenant, il va faire une belle carrière d'administrateur pour une banque. Alors, il dit « banque mutualiste ». Vous savez, c'est des pubs. Oui, c'est une banque mutualiste. Ok. C'est comme si le mot mutualiste, c'est, ça devait te comment dire te t'en douter, enfin bon, voilà. Bref, donc en fait, non, le système patronal, qu'est-ce que tu veux? C'est une réalité. Hein, au tout début, les travailleurs, ils ont pris des risques inouïs pour créer leurs organisations. Dans plein de boîtes d'ailleurs, t'as des salariés qui n'y arrivent pas. Je sais que c'est un combat incroyable, par exemple chez McDo, mais dans plein de boîtes, hein, pour créer un syndicat, ils chassent le moindre gars qui a cette velléité-là, ça c'est une réalité. Historiquement, ça a été extrêmement dur, etc. Mais force est de reconnaître que la bourgeoisie, elle a réussi à dompter les grands chefs syndicaux et qu'elle leur a donné des belles places et ils s'en accommodent bien et ils ont depuis longtemps abandonné toute idée révolutionnaire. Hein. Et depuis longtemps, ils ont abandonné l'idée de changer la société. Ils veulent la co-gérer, l'améliorer, etc. Et de ce point de vue-là, ils marchent main dans la main, très souvent, avec le grand patronat. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, mais ça fait de nous, ouais, des militants de la classe ouvrière et des militants syndicaux, etc. Mais conscients. Conscients qu'il ne faut pas faire confiance, justement. Et plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu dois te méfier. Plus tu montes dans la hiérarchie syndicale, je veux dire. Hein, et plus tu dois te méfier. Et ça n'enlève pas le fait qu'on connaît plein de militants syndicaux et qu'on est des militants syndicaux dévoués. Et voilà, ça n'enlève pas du tout cette idée. Alors, ça c'était une première chose que je voulais dire. Il y avait autre chose, mais là je suis en train de l'oublier. Ça me reviendra. Oui, c'était sur le rassemblement. Tu dis, il faut... Mais nous aussi, on a cette préoccupation du rassemblement. Nous aussi, on a cette préoccupation de l'unité. Oui, bien sûr. Mais de rassembler les travailleurs dans une certaine conscience, justement. Nous, on veut rassembler les travailleurs dans la conscience que notre combat, il ne pourra s'arrêter et être véritablement victorieux que si on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on les dégomme, si on dit à Muliez, à Peugeot, à Bettencourt, à Bernard Arnault, allez vous faire voir, voilà, allez vous amuser sur vos îles paradisiaques, sur vos yachts, etc., et qu'on vous file le champagne, les chiottes en or, comme vous voulez, mais vous ne dirigez plus la société. Mais vous nous, mais voilà, mais on vous empêche de nuire, on prend en main, on prend vos boîtes, on prend les comptes en banque et on gère, voilà. Et nous, oui, on veut rassembler, mais derrière cette conscience-là. Sinon, mais y compris les travailleurs, ils n'ont même pas besoin de nous, je vais te dire. Parce qu'en fait, tu sais, des travailleurs, pour mener des grandes luttes, pour se révolter, pour mener des grandes grèves, ils n'ont souvent pas eu besoin de syndicalistes, d'appels syndicaux ou je ne sais pas quoi. Si tu regardes d'ailleurs toutes les grandes grèves qui ont compté en France, la plupart... Elles ont démarré par la base, comme le camarade expliquait là sur Michelin. La plupart, elles ont démarré comme ça. Et en général, ce qui se passe, c'est que dès que ça marche bien, que la lutte, les syndicalistes et les chefs syndicaux, ils courent après. Et là, ils disent, oh non, on est là, nous aussi, on est d'accord, etc., etc. Voilà. 68, tiens, 1968. Ah, je vais peut-être te faire du mal, mais je... 1968, ça a démarré, vous savez, c'est la jeunesse révoltée qui a commencé à monter les barricades. Alors, les syndicats qui étaient en dehors du coup, à l'époque, qu'est-ce qu'ils disaient? Mouvement de fils à papa, mouvement de bourgeois, mouvement de machin, ça ne doit pas concerner les travailleurs, tout ça. Laissez faire. Hein, le quartier latin, c'est pas là que... Bon, voilà. Sauf que les ouvriers, ils étaient attirés par ces jeunes qui refaisait la société et qui disait il y a autre chose de possible, on va pas passer notre vie métro boulot dodo. Ça parlait pas qu'aux fils à papa, ça parlait aussi aux ouvriers, ça parlait aussi aux prolos, beaucoup, hein, et que finalement ça a aimanté les ouvriers qui étaient révoltés et ça a provoqué des grèves dans les entreprises. Et là les syndicats se sont dit oulala, il y a le feu, il faut qu'on en soit si on veut pas être débarqué et si on veut pas perdre le contrôle. C'est ça qui s'est passé en fait. Donc voilà. Non, je t'assure, si c'est juste pour faire une grève sur les salaires, les travailleurs, ils peuvent y arriver tout seuls. Ils savent faire. Par contre, s'il y a vraiment un mouvement profond avec des millions de travailleurs, et il y en a eu ces derniers temps, moi je pense au Irak, en Algérie, c'était des millions de femmes et d'hommes qui se retrouvaient tous les vendredis dans les rues, c'était profond comme mouvement. Ils racontaient que c'était tout leur immeuble qui était dans la rue, toute la journée, qui discutait, etc. Mais si t'es pas organisé, eh ben t'es un million de grains de poussière côte à côte, mais t'es un million de grains de poussière. Et tu peux dire, il faut abattre le système. Mais c'est quoi ton plan? Comment on peut être fort? Comment on peut prendre le système à la gorge? Elle est où notre force? Elle est dans la rue. Nous on dit notre force, elle est dans les entreprises. Quand le patronat, il a eu la peur de sa vie, c'est quand les travailleurs étaient dans les entreprises et ils ont dit « Ici, c'est chez nous, c'est plus chez toi. Ici, c'est chez nous. Cette boîte, on l'a construite. C'est la sueur de générations d'ouvriers. C'est chez nous. Et d'ailleurs, toi, tu ne peux plus rentrer. » Là, ils ont eu la peur de leur vie. Là. Voilà. Donc, c'est dans ces moments où il y a des révoltes profondes, il faut qu'il y ait une politique. Il faut que ces millions de grains de poussière, ben ça devienne un roc. Voilà. Qui soit capable, effectivement, d'inverser le rapport de force. Et pour ça, en effet, il faut qu'il y ait des travailleurs conscients, rassemblés derrière cette politique. Cette politique qu'on doit partir à la conquête du pouvoir. Ça ne se fait pas en 24 heures, c'est sûr. Mais en revanche, dans un mouvement, quand les travailleurs, ils avancent, quand ils commencent à mesurer qu'ils se font craindre, qu'ils sont en train d'inverser le rapport de force, que le patronat il lâche les trucs, que même le patronat, parce que vous savez, en 1936, les patrons, ils n'avaient pas, c'était même pas une revendication des travailleurs, les congés payés. Et là, les patrons, ils ont eu tellement peur, la peur de leur vie, qu'ils se sont dit, là, il faut qu'on donne un gros truc si on veut reprendre les choses en main. Ça a été ça, l'histoire des congés payés. Ça a été ça. Donc, quand les travailleurs, ils mesurent qu'ils sont en train de prendre le dessus, qu'ils sont en train de se faire craindre, que le patronat, il est sur la défensive, qu'il sort la carotte, le bâton, il sait plus trop quoi faire, etc. Ben, c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'il y ait des travailleurs qui se battent. Là, on est fort, il faut qu'on aille encore plus loin. Voilà. Et il faut qu'on prenne les rênes de la société. Et sinon, encore une fois, et même pour combattre le fascisme, il faudra ça, en réalité. Voilà. Et sûrement pas croire que c'est les élections ou je ne sais quel droit ou je ne sais quelle loi qui peut nous protéger de ça. Il faudra des travailleurs en lutte. Des travailleurs en lutte conscients de leur force. Voilà. Donc, oui, le rassemblement, ça fait partie de notre préoccupation. On essaye de convaincre, on essaye de discuter, hein, mais on doit se rassembler pour se battre et pour se battre pour changer toute la société et en créer une autre sur de toute autre base. Moi, je vais peut-être conclure. Hein. Ce que je voulais rajouter, c'est que tu dis que c'est la vérité pure et dure. Oui, mais justement, nous, on sait que la classe ouvrière, elle a une longue histoire. On sait qu'elle a mené un tas de luttes, justement. Alors, c'est important. Je le dis là, les jeunes, même les moins jeunes en fait, c'est important de l'avoir en tête parce que ça fait des années qu'il n'y a pas eu de lutte profonde de la classe ouvrière en France. Ça fait des années, c'est ça la vérité. Ce qui s'est passé au moment des retraites, ce n'était pas une lutte très profonde, hein, parce que c'était un mouvement de grève, mais il n'y a jamais eu la détermination vraiment de bagarrer avec l'arme ultime qui est la grève. On sait très bien que les patrons, il y a un truc où on peut les toucher, hein. C'est leur portefeuille, pas un autre, voilà. Donc c'est la grève, qu'on manifeste le samedi, le dimanche, après le boulot, qu'on aille voir un match du rugby, ou qu'on aille, voilà, danser, ils s'en foutent. Ce combat-là, on l'a pas engagé. Et c'est vrai que ça fait des années qu'il n'y a pas eu de lutte profonde de la classe ouvrière. Donc, quelque part, la classe ouvrière, elle s'est faite invisible. C'est comme si elle n'existait pas. Et aujourd'hui, on considère que finalement, la vie sociale, la vie politique et l'histoire, elle est faite par les grands hommes, les politiciens, au travers des élections, hein, que c'est l'affrontement entre les nations. Hein. Donc voilà, choisis ton camp. T'as les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre, les Chinois de l'autre. Vas-y, choisis ton camp. Ben non, moi, j'ai pas de camp là-dedans. Hein. Oui, j'ai oublié l'Europe, la France. Mais j'ai pas de camp là-dedans. Moi, mon camp, c'est le camp des travailleurs. Alors bien sûr, c'est une force sociale qui se montre pas, qui s'exprime pas, parce qu'elle se bat pas réellement aujourd'hui. Donc en fait, elle est invisible. Mais nous, on sait qu'elle a une longue histoire. Et qu'il y a eu plein de moments comme ça d'absence de la classe ouvrière, où elle a tout laissé faire, et où elle s'est fait écrabouiller. Et on regarde sa longue histoire. Et dans sa longue histoire, il y a eu en effet des victoires, il y a eu des échecs, il y a eu des trahisons. Il y a eu le comportement des syndicats. Donc, ce qui s'est passé à Michelin, ça ne nous surprend pas. Tu sais, nous, on a un camarade, Jean-Pierre Mercier, il a été viré de la CGT. Viré. Parce qu'il était mauvais militant. Non. Parce qu'il n'était pas dans la ligne. Voilà. Et la ligne, hein, c'est de pleurnicher auprès des patrons pour les supplier de bien vouloir réindustrialiser le pays. C'est ça la ligne. Hein, y compris à Michelin. Hein, à Michelin, ils voulaient que ce soit ça, votre revendication. La réindustrialisation. Ah bah oui, on va pleurnicher, puis on va aussi leur cirer les pompes. Ils ne veulent pas. Et il faut comprendre que. Il faut arrêter de pleurnicher. Oh là là, ils sont méchants. Oh là là, ils sont pas gentils. Oh là là, ils sont. Les patrons ne sont pas patriotes. Bah ouais. Bah bien sûr. Bah, on découvre quoi là? Les patrons, ils sont là pour nous exploiter. Ils ne peuvent s'enrichir qu'en nous écrabouillant. Point barre. Donc tu ne vas pas leur demander d'être gentil. Il faut quand même qu'on comprenne que ouais, la lutte de classe, c'est ça. C'est eux ou c'est nous. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je... Mais oui, donc en fait... Non, ce que je voulais dire par là, c'est que on n'est pas... On constate des choses, mais il faut pas non plus, justement... Il faut pas refaire toute cette expérience en aveugle. Il faut se munir du capital politique du mouvement ouvrier. La classe ouvrière, elle a fait beaucoup de choses. Elle a même arrêté une guerre. Elle a même arrêté une guerre. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, d'accord, hein, y compris les directions syndicales, les partis politiques qui soi-disant étaient se faisaient passer pour des révolutionnaires, ils ont tous fait l'union sacrée derrière le gouvernement et ils ont tous emmené les travailleurs à la guerre. Mais il y a eu un moment où les travailleurs n'ont plus accepté ça. Ils n'ont plus accepté cette boucherie. Et ils ont commencé par se barrer, par se mutiner, par partir. Et là où ça a été le plus massif, ça a été en Russie. Et c'est ça qui a déclenché la révolution russe. Les travailleurs, ils ont arrêté une grève, une guerre. Vous vous rendez compte de ça? C'est un truc incroyable. Nous, on sent impuissants, on sent dépassés par les événements, on sent incapables de rien faire. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont arrêté la guerre, ils ont renversé un tsar, ils ont pris en main toute une société. Et pendant plusieurs années, ils l'ont dirigée de façon démocratique. Et ils ont fait ce que jamais aucun gouvernement n'a fait. C'est-à-dire qu'ils ont veillé à ce que tout le monde ait un logement, ait de quoi affecter, que les gamins soient pris en charge. Ils l'ont fait avec très peu de moyens, mais ils l'ont fait. Ils voulaient le faire, c'était ça leur volonté. Bref, cette histoire-là, il faut qu'on la connaisse. Il faut qu'on sache qu'on a des ennemis, qu'on a des faux amis. Voilà, il faut qu'on le sache. Parce que c'est comme ça qu'on sera fort et qu'on ne tombera pas dans le panneau et qu'on ne se fera pas avoir. Voilà. Donc tout ce n'est pas dénigrer, c'est pas des procès d'intention, je ne sais trop quoi. C'est regardons ce qu'a fait notre classe sociale. Qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Où est-ce qu'elle s'est cassée la figure? Qui elle a eu en face d'elle? Voilà. Dans tous les mouvements. Dans tous les mouvements. Du plus petit au plus grand. C'est ça notre politique. Et je veux terminer sur une chose qui peut-être... J'espère sera enthousiasmante. Non, mais je veux juste terminer sur le fait que quand on réfléchit à pourquoi on est coincé dans cette crise économique et dans cette guerre économique qui se fait de plus en plus féroce, quand on essaye de comprendre d'où elle vient, eh bien, on ne peut qu'arriver à la conclusion que c'est parce que les Chinois produisent trop de voitures. Parce que les Européens produisent trop de voitures, parce que les Américains produisent trop de voitures, parce qu'on produit trop de vêtements, trop de nourriture, trop d'acier, on produit trop. On est en crise. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de progrès techniques, il y a tellement de capacités de produire qu'en fait, on a réalisé l'abondance. L'abondance, elle est là. Elle est là. Eh bien, figurez-vous que avec cette société débile, hein, cette organisation capitaliste absurde, eh bien, c'est parce qu'il y a de l'abondance qu'on est en crise, qu'il y a ces rivalités, qu'il y a ces guerres, qu'il y a cette misère, cette famine.
Eh oui.
Donc, conclusion, ça veut quand même dire que nous, au pouvoir, on en ferait quelque chose de cette abondance. Mmh. Voilà, nous on saurait en faire quelque chose. Et peut-être qu'on dirait, ben c'est bon si les Chinois ils fabriquent des bonnes voitures électriques. Eh ben c'est bon, nous on n'en fabrique pas. On arrête, on fabrique autre chose qui manque. On se coordonne, on planifie pour répondre aux besoins. On arrête avec cette absurdité de se faire une concurrence, la guerre. On planifie avec le souci de répondre aux besoins des 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Ça s'appelle l'organisation communiste. Voilà. Et nous, il faut qu'on le dise dans cette période effectivement noire, démoralisante, où on nous dit que les jeunes ils sont dépressifs et que voilà, et bien nous il faut qu'on dise que nous on voit un autre avenir à l'humanité, nous on voit une autre façon de s'organiser. Voilà, pour nous, oui, il y a un combat à mener, et un combat encore une fois Oh, combien enthousiasmant! Parce que justement, si nous on prenait en main cette immense machine de production, qu'on l'organisait pour nos besoins, eh bien je peux vous dire qu'on modifierait complètement la gueule de l'humanité. Et on en finirait avec ces guerres, on en finirait avec cette misère, cette famine, etc. Avec ces rivalités, cette concurrence, on n'en a pas parlé. La mise en concurrence des travailleurs, le racisme, que ça signifie aussi. Comment les patrons, ils nous divisent avec ce truc-là. On n'en a pas discuté, mais ça fait partie aussi des choses. Mais non, on est convaincus que quand les gens, ils en auront fini avec la peur de manquer. Quand ils en auront fini avec la peur de manquer, quand ils s'organiseront ensemble, toutes ces toiles d'araignée, toutes ces cochonneries-là, la misogynie, le racisme, ben ça disparaîtra aussi. Donc c'est tout ça qu'on veut porter et qu'il faut porter. Voilà. Il faut leur dire, hein, ben ouais, on est peut-être tout seul, on est peut-être à contre-courant, on n'est peut-être pas beaucoup, 50, 100 à vouloir, 150 à vouloir se battre à Michelin, on n'est peut-être pas beaucoup à être communiste révolutionnaire. Mais nous, au moins, on a l'idée d'un autre avenir. Et ça, cet avenir-là, bah, il mérite qu'on se batte.